informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, procès Thomas Sankara, le témoin Issouf Sawadogo a affirmé que c'est Sonny Nabié qui a tiré en premier sur le président Thomas Sankara. Les attaques contre le Burkina Faso sont un message pour toute l'Afrique. Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, appelle les Africains à lever une armée africaine pour nettoyer le continent. Et blocus d'un convoi logistique militaire français au Burkina et au Niger, la ministre française des Armées dénonce des actions de désinformation. À la une également, la France réitère sa volonté de faire barrage à l'arrivée de Wagner au Mali. Selon la ministre française des Armées, Florence Parly, il y aura dans quelques jours une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Voilà pour les titres, bienvenue. Justice pour commencer ce journal et on parle du procès Thomas Sankara. Sept nouveaux témoins ont été entendus ce mardi au tribunal militaire. Le premier, Issouf Sawadogo, a affirmé que c'est Sonny Nabié qui a tiré en premier sur le président Thomas Sankara alors qu'il avait les mains en l'air. On en sait plus avec Abdoul Fattah Tiemtori.
Issouf Sawadogo était à son bureau ce jour-là au secrétariat permanent du Conseil national de la Révolution lorsque les tirs ont retenti. Le président tenait alors sa réunion dans la grande salle juste à côté. Une rafale envoyée par les assaillants brise la fenêtre et en sortant, Issouf Sawadogo dit avoir vu le président Thomas Sankara juste devant lui. Le président est sorti les mains en l'air. C'est là que Nabié a tiré sur sa tête et Hamidou Maïga a tiré sur son thorax. Quand il est tombé, Maïga s'est accroupi pour prendre son pistolet automatique, raconte le témoin. Lui aura la vie sauve, mais il sera arrêté et détenu dans la chambre de Yacine Kafando au sein du Conseil de l'Entente jusqu'au lendemain avant d'être relâché. Dans la chambre, une image reste gravée dans la mémoire du témoin selon ses dires. Un crâne humain posé à côté de la cendre et un œuf cassé à l'intérieur. L'autre témoin oculaire du jour est Boubié Bamouni, membre de la sécurité du président Sankara à l'époque. À en croire le témoin, ce jour-là il était en permission, mais Sankara lui avait demandé de venir le voir après la réunion. C'est alors qu'il attendait en face du secrétariat du CNR lorsqu'il voit Yacine Kafando arriver au volant d'une voiture avec un Sonny Nabié et d'autres éléments à bord. Boubié Bamouni voit le président s'écrouler avant de se sauver, selon son propos.
Et ce mardi, le général Gilbert Diendjéré a été appelé à la barre pour des confrontations. Des témoins ont confié avoir reçu des ordres du lieutenant de l'époque le 15 octobre 87. On reste avec Abdoul Fattah Tiemtori pour plus de détails.
La première confrontation a été faite entre le général Gilbert Diendjéré, son chauffeur Ninda Pascal Tondé et le témoin Sansan Ien. Ce dernier, basé à Pau, assure qu'il était à Ouaga pour une mission. C'est par hasard, selon lui, qu'il se retrouve là au moment des tirs. Après les coups de feu, le chef du conseil de l'entente, le lieutenant Diendjéré à l'époque, l'aurait interpellé pour lui dire « Prenez mon chauffeur avec mon véhicule et faites le tour des unités de Ouaga pour leur dire de rester en alerte ». Mission que le témoin dit avoir exécutée empruntant le véhicule du chef. Diendjéré, appelé à la barre, a confirmé avoir envoyé l'adjudant-chef, mais sans préciser qu'il devait y aller avec son véhicule et son chauffeur. Quant à Ninda Pascal Tondé, le chauffeur, il dit ne pas se rappeler de cette mission. À la suite de Sansan Ien, Alexis Zongo, responsable des engins blindés à l'époque, est passé à la barre. Selon lui, c'est le lieutenant Diendjéré qui lui aurait indiqué les corps de Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune avant de lui instruire de positionner des engins aux sorties de la ville. Wendyele Sawadogo a également reçu des instructions du chef du conseil de l'entente. Le chef du détachement du BIA de Koudougou, basé à Ouaga à l'Enam, a affirmé qu'il était au camp Sangoulé-Lamizana lorsqu'il a entendu les coups de feu. Il appelle le lieutenant Diendjéré qui lui dit « On nous tire dessus, prenez des dispositions pour occuper le carrefour Kaya Fada, c'est à la sortie est de la ville ». Le général Gilbert Diendjéré dit ne pas se rappeler du contenu des échanges au Talkie Walkie, mais il pense avoir dit à Wendyele Sawadogo de le rejoindre au conseil. Pour le carrefour indiqué, Diendjéré assure qu'il s'agissait d'un poste habituel du BIA. Les deux autres témoins entendus sont Jean Bapio Bationo, infirmier militaire à l'époque, et Mumuni Koiba, caporal d'ordinaire, celui qui a été chargé par le lieutenant Gilbert Diendiéré de servir du café noir aux hommes pour qu'ils ne dorment pas dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987.
Abdel Fattah Tiemtoré, le procès Thomas Sankara va se poursuivre demain avec la suite des auditions des témoins. Sur 111 témoins, 33 ont été entendus. Il reste donc 79 témoins à auditionner. Présent à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a donné une communication sur le thème « Quelle démocratie pour nos enfants ?» C'était hier à l'université Joseph Kizerbo. Sur la question, il estime qu'il faut inculquer à la jeunesse africaine les valeurs de la démocratie issues de son héritage. Cheikh Tidiane Gadio.
J'ai posé le problème des constitutions qui ne sont pas opérationnelles, qu'on a copié du système colonial. On n'a rien cherché dans notre héritage, dans notre passé, dans la grandeur de l'Afrique pour nous inspirer. Donc parfois, il y a une inadéquation entre les systèmes que nous avons choisis et nos réalités culturelles, socioculturelles, comment nous on fonctionne comme Africains. Par essence, nous sommes des peuples de médiation, des peuples qui savent régler les conflits, les différends, pour éviter la violence. Mais malheureusement, on nous a installés dans des systèmes qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas de régler ces problèmes. Vous voyez les femmes africaines, résilientes, elles nous ont sauvés depuis l'esclavage. Sinon, on serait morts, on n'existerait plus en tant qu'Africains. On le doit aux femmes africaines. Et chaque fois qu'on a responsabilisé les femmes africaines, elles ont prouvé leur capacité à faire avancer les choses. C'est les hommes qui sont en panne, qu'ils acceptent, pour l'essentiel, d'accepter que les femmes puissent prendre le devant sur beaucoup de questions. Les jeunes Africains, vous avez 70% de jeunes dans votre pays, vous créez un gouvernement avec un ministre jeune et vous pensez que vous avez réglé le problème. Ça veut dire qu'un ministre représente 65 à 70% de la population, les autres, c'est les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes âges, c'est gentil et on a besoin d'eux aussi. Mais chaque gouvernement devait avoir au moins un tiers de jeunes capables de prendre en charge les préoccupations de la jeunesse.
Et face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina en particulier, le panafricaniste Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, explique comment l'épicentre du terrorisme mondial est en train de se tourner vers l'Afrique et ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre.
Il faut que les Africains le comprennent. Les attaques contre le Burkina Faso, c'est un message pour toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et pour tout le continent. Ces gens ont un agenda global. Ils pensent que l'Afrique est à prendre et ils pensent que les Africains ne s'intéressent pas à leur continent, que les Africains n'y comprennent rien. Ces gens sont venus avec leur agenda. Les terres africaines les intéressent, les forêts africaines les intéressent, les ressources naturelles africaines les intéressent, les jeunesses africaines les intéressent. Ils veulent prendre leur part d'Afrique comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, comme l'Europe, etc. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Cabo Delgado, on exécute 34 personnes dès que ces djihadistes arrivent et viennent d'un autre pays. Et après, parfois, on nous dit que c'est à cause des raisons domestiques qu'il y a du terrorisme. Ces gens qui viennent d'ailleurs, les Chebabs qui vont aller attaquer au Kenya, des gens qui ne sont pas de nos pays. Et souvent, ces terroristes-là sont extrêmement riches, ils ne sont pas pauvres. Ben Laden n'était pas pauvre, il était extrêmement riche. Donc, il faut faire très attention. Il y a de l'idéologie et il y a un mépris profond contre les Africains avec la destruction de nos mausolées à Tombouctou, de notre savoir ancestral, un mépris de notre continent. Il faut que les Africains se lèvent, une armée africaine, pour nettoyer ce continent et nous rendre notre dignité et notre autonomie.
À l'instant, Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal et ancien ministre des Affaires étrangères, il sera l'invité de la rédaction demain mercredi dans nos différentes éditions. Suite de l'actualité nationale, conflit foncier à Saptouana. Dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, les habitants de la dite localité dénoncent l'occupation de leur terrain par la société de construction et de gestion immobilière du Burkina, Sokojib. Selon eux, la société, dans la délimitation de son site, a occupé 22 hectares qui leur appartiennent et qui servent de culture. Pendant la saison pluvieuse, les terrains ont été vendus par la Sokojib. Les habitants de Saptouana demandent simplement à la Sokojib de leur restituer leurs 22 hectares. Chalda et Jacob Compaoré.
Pas question de récupérer 33 parcelles ou d'aller à Gobi, village situé à 30 km de Saptouana. Le torchon brûle entre les habitants de Saptouana qui pointent du doigt la Sokojib d'avoir occupé anarchiquement et vendu leur terrain. En guise de dédommagement, ils restent catégoriques et ne réclament que leurs 22 hectares. Dominique Nikiéman, représentant des habitants de Saptouana.
Nous avons nos 22 hectares ici. C'est là que nos ancêtres ont cultivé. C'est ici qu'ils doivent nous régler. 114 parcelles de 300 mètres carrés. Ou soit 136 parcelles de 240 mètres carrés. C'est ici que nous l'allons prendre. Nous n'allons pas le prendre ailleurs.
Sur ce site, il est interdit de construire, indiquent les propriétaires terriens qui interpellent les acheteurs à saisir la Socogib pour le remboursement de leur somme. Dominique Nikiéma.
Dans le cas contraire, ceux qui ont déjà payé leur argent avec la Socogib et que cela se trouve sur nos références que nous avons données, qu'ils repartent vers la Socogib retirer leur argent. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes sur notre terre et personne ne va nous offenser ici.
Ce litige foncier dans la zone concerne environ 112 personnes qui sont en âge d'avoir une parcelle, principalement de la famille Nikiéma. Elles exigent simplement à la Socogib de libérer leur terre réservée pour les travaux champêtres.
Blocus d'un convoi logistique militaire français au Burkina Faso et au Niger, la ministre française des armées dénonce des actions de désinformation. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent et auquel d'ailleurs les autorités, aussi bien burkinabais que nigériennes, n'avaient pas été confrontées. Tout en invitant à s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles manifestations ont éclaté, Florence Parlier a indiqué, je cite, « Barkhane n'a jamais livré quoi que ce soit à des groupes terroristes. Écoutez.
Ce convoi, c'est un des nombreux convois qui permettent d'acheminer ce dont les forces françaises ont besoin, en particulier à Gao. Il est vrai que celui-ci a été pris à partie à deux reprises, au Burkina Faso d'abord, et une deuxième difficulté s'est présentée juste après le franchissement de la frontière au Niger. Ce qui est important, c'est de savoir que il y a eu des violences, que manifestement il y a eu aussi des actions de désinformation sur les réseaux sociaux. Bref, nous travaillons aussi pour que de tels problèmes et de tels drames ne se reproduisent pas. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent et auquel d'ailleurs les autorités aussi bien burkinabées que nigériennes n'avaient pas été confrontées. Et ce sentiment anti-français, alors évidemment il n'en est rien, Barkhane n'a jamais évidemment livré quoi que ce soit à des groupes terroristes puisque Barkhane combat les groupes terroristes.
Et comme annoncé en titre, la France réitère sa volonté de faire barrage à l'arrivée de Wagner au Mali où intervient la force Barkhane. Florence Parly a indiqué qu'une pression maximale se fera pour que cette situation ne se produise pas. À cet effet, elle a indiqué qu'il y aura dans quelques jours une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Florence Parly.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année. Et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable.
La ministre française des armées s'exprimait hier à Dakar à l'occasion de l'ouverture du 7e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. C'était au cours d'un entretien accordé à nos confrères de RFI et France 24.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour se sont intéressés à la décision du président du Faso, celle du rejet du rapport de l'enquête d'Inata. Il est aussi question des nominations au sein de l'armée burkinabé et du procès de l'opposant béninois Joël Aïvo. La revue de presse, c'est avec Asma Odaou.
Le confrère Le Quotidien s'interroge sur le rejet du rapport sur le drame d'Inata par le chef de l'État. Qui veut cacher la vérité au peuple ? le confrère estime que le chef de l'État a vraiment besoin de secouer le cocotier au risque d'être surpris un matin par une tempête ravageuse qui emportera tout sur son chemin. Et ce sera bien dommage, conclut le confrère. Pour le quotidien d'État citoyen, il faut crever l'abcès. Le drame d'Inata ne doit pas rester impuni pour le bien de l'armée burkinabé, absolument pas. Et le pays, revenant sur les nominations de nouveaux chefs militaires par le président Roch Kabore, confie que seuls compteront les résultats. Et entre les lignes, il écrit « En attendant donc d'avoir dans les jours à venir les nouvelles du front, l'on peut se permettre de dire que Roch Marc-Christian Kabore a joué sa partition, car comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Il appartient donc au nouveau chef militaire d'aller au charbon. Il appartient aussi au Burkinabé de faire bloc autour des forces de défense et de sécurité. » Hors de chez nous, le doyen des quotidiens privés, l'observateur Palga, nous amène au Bénin. Se lit en titre « Procès Joël Aïvo, Talon continue de marcher sur ses opposants ». Procès ouvert hier lundi, et le journal estime qu'il en a un de plus donc dans ce Bénin de Patrice Talon, où la criée est devenue une véritable machine à broyer de l'opposant. Tant ils sont nombreux, les contempteurs du locataire du palais de la Marina pour qui le choix, c'est soit l'exil, soit la prison. Pour aujourd'hui au Faso, quelle que soit l'issue de ces procès, les verdicts qui y seront prononcés viennent allonger la liste des opposants politiques traqués pour leur opinion ou prise de position contre un régime dont l'avènement avait pourtant ravivé les espoirs de démocratisation en Afrique de l'Ouest.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Fidel Compaoré. Merci de votre aimable attention.
Radio Omega, l'info en direct.